Radio Grand Ciel présente Ensemble,
une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Pierre Braquet, président de l'association du Festival international de musique. Pierre Braquet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Nous avions l'an passé suivi ce festival qu'avait eu pour thème la synesthésie. Cette année, vous avez voulu présenter le grand développement de la musique romantique russe à la fin du XIXe siècle, à savoir du groupe des cinq aux grands épigones. Alors, que voulez-vous nous faire découvrir au cours de ces soirées musicales de Saint-Hilaire-des-Noyers 2015 ?
Il y aura deux grandes parties dans ce festival. Une partie qui est consacrée à ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous avez dit,
oui.
L'explosion de la musique russe au XIXe siècle, et une autre partie qui sera plus générale, mais dont on reparlera. Alors, pour parler de cette première partie, j'ai voulu me plonger dans la musique russe et comprendre ce qui s'était passé depuis le XVe siècle jusqu'au XIXe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant le XIXe siècle et même le milieu du XVIIIe siècle, la musique instrumentale était la victime d'un profond désamour de l'Église orthodoxe, qui voyait, je dirais, d'un mauvais œil les musiques folkloriques développées par les paysans russes. Et ça a même fait l'objet en 1648, lors des troubles de la révolte du sel et de la révolte des estaminets, d'un oukaz du tsar Mikhaïlovitch qui interdit la musique, les jeux, la chanson, les chansons et le spectacle.
Ah oui, tout ce qui était agréable était interdit.
Alors, on a chassé les musiciens hors des villes, on brisa leurs instruments, et partout où l'on trouverait des domras, des sournas, des musiques, il faut les faire.
Alors, c'est quoi ça ?
C'était tous les instruments de la musique russe,
oui.
Et donc il fallait tout brûler, tout détruire. Donc, la cloche devait être le seul instrument qui devait.
Donc, il a fallu faire de la musique avec une cloche.
Avec une cloche et à côté, la liturgie russe. Alors, cet état est resté jusqu'à la mi-18e siècle. Et la musique officielle, c'était uniquement des chants religieux a cappella, monodiques puis polyphoniques. Et il y avait une absence des fois de hiérarchie harmonique avec parfois des dissonances dans cette musique.
Un peu comme la musique moderne.
Oui, de toute façon, la musique russe traditionnelle est très belle, la musique liturgique. Mmh. Mais ce n'est pas du tout de la musique instrumentale, telle qu'on le voit, on l'a vu exploser en Europe à cette époque. Alors, il y avait pourtant un vaste répertoire de musique populaire, qui était mal vu par l'Église, qui étaient les bilnes ou les chansons de Chomaroki.
Alors, dites-nous ce que c'est, parce que...
Ah, c'est des chansons populaires.
Chansons populaires.
Mais qui étaient mal vues par l'Église. Alors... Ensuite, il y a eu les Italiens qui sont arrivés vers 1730 et qui ont amené l'opéra, et en particulier l'opéra bouffe. Et donc, il y a eu des auteurs russes, Berezovsky ou Bordlansky, qui étaient partagés entre la musique religieuse et la musique d'opéra. Alors, ensuite, il y a eu des premiers compositeurs qui ont essayé de lancer de la musique instrumentale, Pakevitch ou Afomin. Et alors, ça a été le moment où a éclaté la littérature russe avec Pushkin, Gogol, Lermontov, Joukovsky. Et donc là, il y a eu aussi une explosion, le début d'une explosion avec l'apparition de Glinka.
Ah, voilà. Alors, il faudrait nous parler de Glinka.
Alors, Mikhail Ivanovitch Glinka est considéré comme le père de la musique russe. C'est lui qui a été le premier à réaliser des œuvres qui sont comparables à ceux que l'on entendra plus tard avec les grands du groupe des cinq et les grands épigones. Et je dirais que Glinka a été le patron des idées qui ont animé plus tard le groupe des cinq. Et nous verrons après qu'il y a eu une dichotomie qui s'est réalisée entre le groupe des cinq et d'autres qui étaient plus favorables à la musique occidentale.
Oui, parce que lui, en fait, il a beaucoup voyagé. Il est allé en Italie et c'est là qu'il a découvert...
Il est même mort en Allemagne lors
d'un
voyage.
Oui, il a découvert Rossini en Italie.
Oui, oui.
Et puis en France aussi. Et là, il a rencontré aussi Berlioz.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà.
Donc, si vous voulez, il a été quand même imprégné de la musique occidentale, mais en laissant, je dirais... en particulier dans les grandes œuvres « Une vie pour le tsar », qui sont les grandes œuvres majeures, qui est un opéra de 1836, et « Ruslan et Ludmila » en 1842, qui a été écrite à partir d'un poème de Pouchkine. Donc ça a été vraiment le départ.
Et ça, c'est imprégné encore du folklore
Oui. Ben, disons que, comme les noms le disent, « Une vie pour le tsar » et « Ruslan et Ludmila », c'est bien donc le premier, la légende d'Ivan Soussanine,
oui,
qui était un héros national russe, et Roussan et Lumina, qui était un poème épique de Pouchkine.
Voilà.
Voilà. Alors, ça a été réellement, il est considéré comme le père de la musique russe.
De l'école russe.
De l'école russe,
moderne.
Absolument. Alors après, ben peut-être qu'on va attaquer la deuxième, mais peut-être qu'il serait bon d'entendre un petit... Bon.
Alors peut-être ce serait bien, effectivement.
Alors, mais là, on est déjà dans les épigones avec Glazounov et la sonate numéro 1 qui sera jouée par Alexander Palais, qui est pour moi une véritable petite merveille.
Qui sera jouée, disons-le.
Qui sera le 27 juin à Saint-Hilaire-des-Noyers.
Oui, alors c'est vrai que je n'ai peut-être pas présenté cette série de concerts. Ces concerts auront lieu à Saint-Hilaire-des-Noyers. Ce sont des soirées musicales qui seront présentées et plusieurs dates. Mais peut-être nous les donnerons ensuite au fur et à mesure.
C'est-à-dire on va les donner peut-être au fur et à mesure. Et puis de toute façon, le site web n'est pas encore totalement opérationnel. Je le rends opérationnel cette semaine. Mais il faut savoir que tout se passe à Saint-Hilaire-des-Noyers, sauf le premier concert du 13 juin, qui ne fait pas partie de la musique russe, mais qui fait partie justement de la deuxième partie dont on a parlé. Qui est un magnifique concert d'orgue qui va être réalisé par Thomas Hospital à la cathédrale de C.
Oui, alors ça sera un grand
juin.
Moment, le 13 juin, à la cathédrale de C.
Mais on n'est pas dans le russe. Là.
Non.
On écoute peut-être...
Donc là, nous venons d'écouter Glazounov, la sonate numéro 1 en si bémol mineur, opus 74. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que ce concert aura lieu le samedi 27 juin au château de Saint-Hilaire-des-Noyers. Ce sera le grand récital Alexandre Palais. Alors, peut-être vous pouvez nous commenter un peu ce...
Disons qu'on n'est pas arrivé là, parce que pour l'instant, on n'est qu'au groupe des cinq et à Anton Rubinstein. Mais on va reparler de Glazounov bientôt, dans la troisième partie de cette émission, quand on parlera des grands épigones.
Oui.
Alors, on va parler là maintenant de la période intermédiaire. Période intermédiaire qui a vu deux groupes s'affronter.
Groupes rivaux, alors.
Hein ?
Les groupes rivaux.
C'était pas réellement. Il y avait un groupe versus un grand de la musique russe, qui est Anton Rubinstein. Le groupe, c'était le groupe des cinq. Alors parlons un peu d'abord d'Anton Rubinstein. Anton Rubinstein, son nom complet, c'est Anton Grigorievich Rubinstein, est né en 1829 et il a eu un frère qui était très connu aussi, qui est Nikolai Rubinstein. C'est un pianiste, un compositeur, un pédagogue et qui a beaucoup fréquenté, je dirais, les pianistes occidentaux. Il faut savoir qu'il a eu des contacts fréquents et des voyages aussi, en 1841 en particulier, avec les grands romantiques de l'époque, c'est-à-dire Chopin, Liszt, Meyerbeer et aussi Mendelssohn. Donc il a été très imprégné de la musique telle que Liszt, Chopin l'ont composée. Et donc il avait eu aussi des professeurs qui étaient en Occident. Il avait des qualités exceptionnelles. Il a été écrit sur lui que la renommée universelle et la popularité inhabituelle de Rubinstein sont basées surtout sur son génie de la performance derrière le piano. Il a été un créateur, poète et artiste. Quand on écoute sa musique, on n'est pas emballé, je dirais, de la même manière qu'on puisse être emballé par, je dirais, du Glazounov. C'est-à-dire, c'est une musique très technique, magnifique. Mais disons qu'il manque, pour moi, ça c'est mon opinion, un peu le petit trait russe qui fait qu'on a, le cœur qui vibre un peu plus. Alors, bien sûr, étant très pro-occidental et étant très proche de la musique occidentale, bien sûr, il a été en opposition avec Balakirev. Et Balakirev, qui était le patron du groupe des cinq dont on va parler, n'aimait pas, je dirais, le fait que, je dirais, il disait que ça allait polluer la musique russe d'avoir des gens qui soient trop occidentalisés par rapport à la mélodie russe, la mélodie folklorique. Alors, quand il est mort, je pense qu'il est important de le dire, Rubinstein a eu, je dirais, des mots qui semblaient le qualifier. Les Russes me qualifient d'Allemands, des Allemands de Russes, les Juifs de chrétiens, il était juif, et les chrétiens de juifs. Les pianistes me considèrent comme un compositeur, les compositeurs comme un pianiste, les classiques comme un moderne, les modernes comme un réactionnaire. Ma conclusion est que je ne suis qu'un pitoyable individu. Je pense qu'il a eu tort de dire ça parce que ça reste un très grand artiste et un des grands, je dirais, compositeurs de la musique russe dont vont bénéficier plus tard les épigones. Alors, le groupe des cinq. Alors, le groupe des cinq, c'est un groupe qui a été créé par Balakirev. Balakirev, qui était quelqu'un qui n'a pas suivi de grandes écoles de musique, qui a été un autodidacte. Et à Balakirev s'est rejoint César Cui, donc qui était un musicien qui était fils naturel d'une lettonne, d'un Français, de la Grande Armée, qui était le porte-parole et le rédacteur du manifeste. Et ensuite, alors, viennent trois grands noms de la musique russe qui étaient associés au groupe des cinq, Moussorgski, bien sûr, Nikolaï Rimsky-Korsakov, qui a été vraiment le maître du groupe des cinq, et bien sûr Borodine. Alors, juste en tant que chimiste que j'ai été, Borodine a travaillé avec Mendeleïev, qui avait fait la classification périodique. C'est-à-dire que Borodine, outre le fait que c'était un grand compositeur, était aussi un grand chimiste. Alors, l'expression du groupe des cinq vient, petit groupe, vient du journaliste Vladimir Stasov, qui a parlé du groupe en 1865 de Mogushkaya Koshka, puissant petit groupe. Alors, le groupe des cinq a voulu suivre tous les principes de Glinka ne pas en démordre, c'est-à-dire ne pas surtout... Il voulait utiliser la musique occidentale, mais en la russifiant et surtout en détestant toute... je dirais ce qu'a fait Anton Rubinstein, c'est-à-dire de faire une musique débarrassée du caractère russe.
Tandis qu'eux vont faire une musique russe folklorique, du folklore.
On connaît la musique de Rimsky-Korsakov, oui. De Moussorgski, de Borodine en particulier. Balakirev était un peu paresseux, hein, et composait pas grand-chose, mais enfin, il a composé quand même, Balakirev. en particulier islamique, est très connu. Mais je dirais que les grands, grands, grands...
C'est lui qui va créer l'hymne russe, d'ailleurs.
C'est possible. Là, vous m'apprenez quelque chose.
Bah, voilà.
Lequel ? L'ancien, l'hymne tsariste.
L'hymne national de la Fédération de Russie de 1991 à 2000.
Ah, pourtant, il est magnifique. Alors là, moi, j'adore l'hymne russe qui a été... Mais les paroles ont été changées depuis la chute du mur. Enfin, disons, depuis la perestroïka.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, était associé au petit groupe des cinq, mais qui préfigure déjà les épigones. Donc, Liapounov, qui a été, un des grands compositeurs qu'on ne connaît pas. Je ne pense pas que vous connaissiez Liapounov. Qui est mort en France, d'ailleurs, et qui a eu une formation au conservatoire de Moscou. Et ensuite, qui a enseigné à Saint-Pétersbourg. Alors, bien entendu, j'ai oublié de vous dire, mais que toute cette époque a vu la création du conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui est, of course, très, très connu, et d'autre part, du conservatoire de Moscou, dont sortent encore, bien sûr, tous les grands de la musique russe. À côté de Liapounov, on peut citer Liadov aussi, Anatoli Konstantinovich Liadov, qui a vu comme maître un des groupes du 5, qui était Nikolaï Rimski-Korsakov, et qui sont intermédiaires par rapport aux épigones, et qui ont fait aussi de la musique remarquable. Donc, en quelques dates, et pour résumer, le groupe des 5, il a été créé en 1856. Et finalement, la dissolution a été faite lors de la mort de Moussorgski et Borodin en 81 et 87 respectivement. Donc les canons de ce groupe, c'était être tous autodidactes et donc pas sortir d'un des grands lieux de la musique. Balakirev était bien sûr le chef du Cénacle et il était décrit comme quelqu'un ayant des compétences musicales trop empiriques, qui n'était pas souvent assez consolidée et qui était, pour certains, insuffisante. Ce qui n'est pas le cas des trois autres que je vous ai cités, Moussorgski, Borodin et Rimski-Korsakov. Donc, il prenait une musique spécifiquement nationale, basée sur les traditions populaires russes, tout en bénéficiant de l'apport de la musique romantique occidentale.
En fait, c'était plus le vrai que le joli.
Pardon ?
C'était plus le vrai que le joli.
Oui, oui, tout à fait. Mais disons que ça a amené cette musique magnifique, romantique, que l'on va voir au niveau des épigones. Alors, je parlerai juste du plus grand, donc, de ce groupe des cinq, de Rimski-Korsakov. Bon, je vais juste citer ce qu'a dit Shostakovich sur Tchaïkovski et Rimski-Korsakov, qui ne s'appréciaient pas, ils étaient d'accord sur peu de choses.
Enfin, Rimski-Korsakov, c'est quand même le magicien de l'orchestre.
Le magicien du Cénacle, du groupe des cinq.
Oui.
Je n'ai pas parlé de Tchaïkovski, il faudra que je vous fasse une réflexion sur Tchaïkovski. Où était Tchaïkovski dans cette bataille ? Mais avant, je vous finis de lire la citation de Shostakovich. Néanmoins, Rimski et Tchaïkovski s'accordaient sur une idée. Il faut composer constamment. Si on ne se sent pas capable d'écrire une œuvre majeure, alors on écrit des petites pièces. Et si on n'arrive pas à les finir, alors on orchestre autre chose. Juste commentaire. Alors Tchaïkovski, dans la bataille du groupe des cinq d'Anton Rubinstein, a eu une position très, très, très prudente. Il n'a jamais voulu se fâcher avec personne. Et il y a eu justement des commentaires qui ont été faits sur l'attitude de Tchaïkovski avec le groupe des cinq, qui étaient comparables à deux pays qui sont l'un à côté de l'autre, qui évitent de se battre, mais avec une paix armée. La phrase, c'est « Les relations entre Tchaïkovski » et c'est le frère de Rimski-Korsakov qui l'a écrit. « Les relations entre Tchaïkovski, Rimski-Korsakov et le groupe des cinq se rapprochent de celles de deux États voisins, respectueux les uns des autres, mais défendant jalousement leur intérêt. » Voilà. Alors, donc, ce groupe des cinq et le groupe des cinq et Tchaïkovski et Anton Rubinstein ont été à la base de l'explosion sur les épigones. Alors, peut-être que maintenant, on va écouter un autre morceau de musique. Peut-être que ça sera du Balakirev, honneur au patron du groupe des cinq, de manière à prévoir l'explosion qui va se passer après.
Eh bien, nous écoutons Balaguerrev. Avec Pierre Braquet et nous venons d'écouter un concert du groupe des cinq. Nous allons arriver, je crois, maintenant, Pierre Braquet, aux épigones.
Oui, tout à fait.
Alors, les épigones, je le rappelle, c'est un mot qui était pris dans la mythologie grecque et qui voulait dire les fils des héros de la guerre des sept chefs. Et ils inspirèrent beaucoup d'œuvres du même nom, que ce soit une tragédie grecque ou bien des descendants d'Idadoc. Et là, en fait, ce sont des grands musiciens russes, c'est bien cela.
Ce sont les héritiers de l'ensemble des groupes, du groupe des cinq, mais aussi de la musique de Rubinstein, un peu bien sûr aussi Tchaïkovski. Et on va retrouver là-dedans, je dirais, une pléiade de compositeurs russes qui ne...
Ils sont peut-être sept.
Ils sont peut-être sept si on parle des grands épigones.
Voilà.
Mais je dirais, il y a des épigones qui sont beaucoup moins connus que le groupe des sept. Je vous parlerai bien sûr de Reinhold Lier, que j'adore, et qu'on va entendre aussi au festival, et qui n'est pas connu, qui est de moins en moins connu d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont de moins en moins connus. Alexander Palais me disait, même en Russie, qui sont de moins en moins joués, ce qui est une catastrophe.
Venons-en à Rachmaninov, puisque c'est le premier, et on le connaît.
Le grand des grands.
Le grand des grands, effectivement.
Le grand des grands, Rachmaninov. Bon, tout le monde connaît Rachmaninov.
Il est né en 1873, près de Novgorod. Voilà.
Et donc, Rachmaninov a fini sa vie aux États-Unis. Mais Rachmaninov est certainement, je dirais en particulier au niveau des concertos de piano qu'il a fait, qui sont le concerto numéro 3, numéro 2, sont des œuvres remarquables. Mais pas que ça, les moments musicaux de Rachmaninov qu'on avait joués au dernier festival en 2013 sont aussi magnifiques. Donc si vous voulez, l'ensemble de la musique de Rachmaninov est quand même splendide. Mais elle n'est pas la seule. Et si vous voulez, si je prends par exemple un autre grand épigone, Glazounov, pour lequel on a entendu la sonate numéro 1 tout à l'heure, qui sera jouée par, comme je répète, par Alexander Palais, c'est une musique magnifique bien sûr, il faut avoir l'esprit romantique pour aimer cette musique, mais
oui.
Elle est magnifique. Alors, parmi les autres grands épigones, Arinsky, qui va être aussi joué par le trio, trio impromptu.
Et ce sera à quel jour?
Donc, c'est le 19 juin, où Karine Cello, Anaïs Flores et Lucille Perrin vont jouer outre le Glinka, parce qu'elles joueront aussi un peu de Glinka, vont jouer donc le fameux trio opus 32 en ré mineur de d'Arinsky.
En effet, donc vendredi 19 juin, 20h30, château de Saint-Hilaire-des-Noyers, le trio impromptu.
Exactement.
Voilà.
Alors, Arinsky, dont on parle, là, on vient de parler, était aussi, faisait partie des grands épigones. Il a été formé par Rimsky-Korsakov. Il a eu aussi comme maître Tchaïkovski. Donc, quand on a comme maître Rimsky-Korsakov et Tchaïkovski, on est certainement très bon. Mais il aimait un peu trop la vodka et il est mort jeune. Il est mort à 45 ans. Au Grand-Duché de Finlande. Alors, ensuite, je vous citerai les noms, je ne vais pas vous citer tout l'historique de chacun, mais... alors, oui, si, parmi les grands épigones que je dois citer, il va y avoir Medner. Medner, donc, on va jouer aussi lors de, du, 25, du festival. Donc, Medner va être joué par Alexander Palais, et en particulier, il va interpréter une des grandes œuvres de Medner, qui est la sonate Reminiscenza, en la mineur, opus 38. Alors toujours, et lors de ce concert, il y aura aussi un des épigones tardifs qui était un peu à mi-chemin par rapport à la musique du XXe siècle, Alexander Scriabine, la sonate numéro 2 en sol. Tout ça, donc je répète, ça sera interprété par Alexander Palais le 27.
Donc là, disons-le très clairement, samedi 27 juin, Château de Saint-Hilaire-des-Noyers, grand récital Alexander Palais, 15h30, un concert des membres de la Société de la Légion d'honneur, et à 19h30, l'école de musique en Russie de Glinka au groupe des 5 et aux épigones, et vous ferez la conférence vous-même, Pierre Braquet. Et 20h30, le cycle des concerts avec Nikolaï Karlovitch Medner, Alexander Konstantinovich Glazounov et Alexander Nikolaïevitch Scriabine.
Alors, pour finir, justement sur les épigones, il faut savoir que Jean Dubé va reprendre le flambeau le 17 juillet. Il va interpréter Glazounov, il va interpréter un autre épigone beaucoup moins connu, qui est russe, qui est Blumenfeld. Il va interpréter aussi, moi que je trouve magnifique, il a fait de la musique magnifique, des préludes de Reinhold Glier. Donc, d'ailleurs, on écoutera à la fin de cette émission un prélude de Reinhold.
Donc, ça, c'est le vendredi 17 juillet à 20h30.
Exactement.
Jean Dubé, récital de piano avec tous ces grands de la musique russe.
Alors, oui, Glier a fait des préludes magnifiques au piano.
Glier, c'est votre chouchou.
Glier, c'est un peu mon chouchou. Alors, pour terminer, très rapidement, il faut savoir que vous avez entendu des noms, mais qu'il y en a plein d'autres. Il y a Kalanikov, il y a Hippolytov Ivanov, il y a Rebikov, Vassilenko, Yuan, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les citer.
Non.
Il faut savoir que cette période de la musique russe était magnifique.
Alors je rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez donc assister à ces soirées musicales de Saint-Hilaire-des-Noyers. Vous pouvez réserver au 06 80 24 44 34 ou bien par mail p.braquet@fish-sh-sh.com. Les tarifs, 25 euros le concert, 50 euros pour la saison, c'est-à-dire 140 euros, 7 concerts. Pour réserver, adressez les règlements à Fiche, Festival de Piano Saint-Hilaire, Château de Saint-Hilaire-des-Noyers, Colonard, Corubert, c'est 61-340. Et ainsi, vous aurez du groupe de 5 aux grands épigones. Vous pourrez ainsi découvrir et écouter dans la magnificence aussi des grandes orgues de la cathédrale de C, les œuvres des compositeurs français de la fin du 19e, 20e siècle, Widor, Vierne, Messiaen. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter notre émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.
Merci, Christiane. Peut-être un peu de lierre pour ne pas oublier.